Je voudrais lire le psaume 57 avant la prière. Levons-nous pour cela. Psaume 57, quelques versets. À partir du verset 2. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Et à l'ombre de tes ailes, je me réfugie jusqu'à ce que la ruine soit passée. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il envoie des cieux et vient à mon secours. Alors que le persécuteur cupide m'a outragé, Dieu envoie sa grâce et sa fidélité. Avec ma vie, je suis couché au milieu des lions, au milieu d'ennemis remplis de haine, au milieu d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches et dont la langue est une épée tranchante. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Jusqu'ici, cette parole. Dieu fidèle, nous te remercions de tout cœur de ce que, bien que nous soyons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde et n'appartenons pas à ce lieu. Notre patrie est là-bas dans les cieux, où l'on ne sait rien de l'affliction et du malheur. Seigneur bien-aimé, nous aspirons à quitter cette terre et à te rejoindre dans la maison du Père. Dans la maison du Père. Tu as déjà préparé les demeures et tu viens bientôt, très bientôt. Nous te glorifions et te louons, nous t'adorons et te prions avec ferveur, sois au milieu de nous aujourd'hui. Seigneur, bénis-nous. Élève sur nous ton visage, ta face en grâce et donne-nous ta paix. Enlève de nous tout ce qui pourrait t'interposer entre tout ce qui pourrait s'interposer entre toi et nous, que ce soit des actes, des paroles, des pensées. Ah Seigneur, que le sang de la nouvelle alliance accorde à ton peuple aujourd'hui là, oui, l'acquittement, la justice, Seigneur, la libération. Seigneur bien-aimé, nous te remercions aussi de tout cœur pour ce jour que tu as fait pour nous parler et nous bénir. Qu'il te plaise d'être au milieu de nous, de sauver les perdus, de guérir les malades, de libérer les enchaînés et scelle-nous tous, s'il te plaît, avec le Saint-Esprit. Donne-nous le sceau divin, Seigneur, pour la rédemption de nos corps, la certitude que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite aussi dans nos corps mortels pour les rendre ensuite vivants. Ah Seigneur, bien-aimé, nous te remercions encore une fois d'être présent et de nous bénir. Tout est remis. Prends celui qui parle, ceux qui écoutent, oui, sois toi-même celui qui parle. Parle-nous comme un ami parle à ses amis, car nous sommes tes amis, parce que nous faisons ce que tu as ordonné. Encore une fois, nous te rendons grâce et te prions. Sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais tout particulièrement souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici pour la première fois. dans le précieux nom du Seigneur et bien sûr à nous tous. Je pense qu'il n'y a personne ici qui n'ait pas entendu, vu, suivi consciemment les événements de ces dernières semaines. Et je pense que nous pouvons dire avec conviction, nous sommes très proches de la fin. Nous voyons que l'évolution n'est pas seulement lente, mais qu'elle se déroule à une vitesse que l'on n'aurait pas cru possible. Tout cela nous impose un saint devoir, celui de ne pas nous contenter d'observer ou de nous enthousiasmer pour telle ou telle chose, mais de comprendre en même temps que nous devons utiliser ce temps, voire le racheter, pour accomplir la tâche que Dieu nous a confiée. Lorsque nous lisons l'Apocalypse en particulier, une profonde gratitude m'envahit, notamment en pensant que le Seigneur nous a donné frère Branham. Comme un homme de Dieu, comme un prophète qui avait l'intelligence de la parole prophétique, qui nous l'a communiqué par l'inspiration et la révélation, et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus qu'à observer les choses pour savoir comment elles se passent. Vous pouvez le confirmer, cela fait des années que nous parlons du fait que l'Orient doit s'ouvrir, donc l'Est doit s'ouvrir. Oui, qu'il va s'ouvrir et tous ceux qui ont écouté cela avec attention se réjouiront avec nous que cela soit vraiment arrivé. Nous pourrons prêcher en plein air, non seulement dans les pays occidentaux, donc à l'ouest de l'Europe, mais bientôt même sur la place Rouge à Moscou, sur la place Venceslas à Prague, sur la place Tiananmen et même en Chine. Ne vous inquiétez pas, le temps presse et l'évolution globale se déroulera ainsi. Tous ceux qui n'ont pas encore compris, un ici, un là, sont peut-être des retardataires, mais Dieu aura son chemin, ouvrira les portes jusqu'aux extrémités de la terre, car il est écrit, cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations en témoignage. Et alors viendra la fin. Non pas avant, mais alors viendra la fin quand cela aura lieu. Et si nous agissons ainsi, nous ne voulons pas faire de politique. Mais ce que disent les Écritures, nous pouvons aussi en parler. Ici en particulier, Apocalypse 17, dont je voudrais lire deux ou trois versets. Apocalypse 17, verset 17, il est dit ici, « Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein, d'agir dans un seul sens et de mettre leur royauté à la disposition de la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Que ce soit à l'est ou à l'ouest, les puissants doivent mettre leur pouvoir à disposition. Et plus précisément à ce pouvoir qui, ici, en Europe centrale, est l'Empire romain, tel qu'il nous est décrit très clairement à nous, dans le prophète Daniel. Il n'a vu que quatre bêtes Et la révélation lui a été donnée directement que les quatre bêtes signifient quatre empires mondiaux qui se succéderaient. Et le dernier est l'Empire romain. Et puis l'homme de Dieu sur l'île de Patmos voit cette bête ici qui est en effet une puissance, donc un pouvoir mondial. Cette bête égale puissance, donc pouvoir dans la prophétie biblique. Il voit la bête qui était là, qui n'est plus et qui sera à nouveau là. Je lis à ce sujet Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue a existé et n'existe plus, mais elle remontera de l'abîme pour aller à la perdition. Et alors, les habitants de la terre seront dans l'étonnement, ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Quand ils verront que la bête a exercé, que la bête a existé, qu'elle n'existe plus et qu'elle apparaîtra de nouveau. Et c'est là que le bas blesse. Verset 9. Il faut ici de l'intelligence jointe à la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles trône la femme. Qui donc ne connaît pas la ville aux sept collines? Ce sont sept montagnes. Pas seulement sept têtes, ça aussi, mais sept montagnes sur lesquelles trône la femme. Pas Washington, pas Moscou, mais Rome. Et l'Esprit de Dieu dans les prophètes y a fait allusion. Et le même Esprit de Dieu est en moi. Et tant que ma voix retentira, je montrerai ces choses et j'en parlerai parce que d'autres ne le font pas. Ils cherchent ce surhomme de la fin des temps dans le monde entier, mais pas là où il est vraiment. En lien avec cela aussi, je voudrais encore une fois remercier Dieu de tout cœur pour l'envoi de son serviteur et prophète, notre bien-aimé frère Branham. Nous ne pratiquons pas de culte avec lui, mais nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir donné en ce temps un aperçu par révélation, non pas par une recherche ou une interprétation personnelle, mais par révélation de ce qui se passe maintenant. La femme est en même temps cette montagne sur laquelle la femme trône. Et nous avons l'image globale et nous la voyons clairement devant nous. Le pouvoir qui était là et qui n'était plus, là il se forme et apparaît devant nos yeux. Et ce n'est pas un hasard que les hommes, les politiques de rang, de profession et de nom parlent tous soudain la même langue, utilisent le même vocabulaire. La maison pan-européenne, sans fenêtre, sans porte, tout le monde peut entrer, regarder dehors, sortir de l'Atlantique à l'Oural. C'est ce qu'a dit le général de Gaulle en 1957 lorsqu'il a co-signé le traité de Rome. Aujourd'hui, ce sont d'autres qui le disent. Cher ami, je ne veux pas m'attarder sur ce point, mais je voudrais souligner un point. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Et quand je pense que dans quelques jours, mon ami, aussi mon ami Gorbachev, embrassera lui aussi l'anneau du pape. On ressent une détresse intérieure, mais on pense en même temps à la parole de Dieu qui dit qu'ils doivent agir dans un sens, dans un même sens, et mettre leur pouvoir, leur puissance, leur pouvoir à disposition jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Humainement, c'est presque impossible à classer, à comprendre. Et ici, nous pouvons souligner très clairement si mon Seigneur bien-aimé se tenait aujourd'hui à ma place, il s'exclamerait en ce jour, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Je ne sais pas combien d'autres choses doivent être dites et lues ici, mais je voudrais souligner une chose qui concerne ce sujet. Que Dieu nous donne la grâce non seulement d'observer ce temps, mais de le mettre à profit pour apporter l'évangile valable éternellement à tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler de la foi. De la foi qui devient agissante, efficace, de la foi qui ne consiste pas en paroles, mais en effet, donc la foi qui produit un effet, l'effet de ce que Dieu fait. Permettez-moi de lire quelques passages à ce sujet en commençant par Matthieu chapitre 8, verset 1. Matthieu chapitre 8, verset 1. Puis quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le saisit et dit, « Je le veux, sois pur. » Il fut aussitôt purifié de sa lèpre. La pensée qui m'anime est la suivante. Notre question, si tu veux ou si tu peux, adressée au Seigneur, n'est pas tout à fait correcte. Il veut, il peut. En lui, toutes les promesses sont oui et amen. Mais il nous pose la question, peux-tu croire? Oh, si tu pouvais croire, tu verrais la gloire de Dieu. Pas la question, Seigneur, veux-tu? Il veut. Il veut. Crois-le. Il veut. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que nous soyons pardonnés. Il veut que nous soyons sauvés. Il veut. Il veut. Il veut. Il veut bénir aujourd'hui. Il veut. Cela ne doit pas être la question. Mais la question que nous devons nous poser est de savoir si nous croyons. Il peut, il veut, mais peux-tu croire pour voir la gloire de Dieu? Je l'ai dit ici il y a quelque temps et cela m'émeut en effet. Nous avons eu les quatre évangiles comme compte rendu de et sur ce que notre Seigneur a fait à l'époque. Et partout où cet évangile de Jésus-Christ est proclamé, les mêmes choses qui se sont produites à l'époque comme encadrement de l'évangile doivent se reproduire. Ce n'est pas une théorie. C'est une pratique divine, ici sur cette terre. Et nous avons à ce sujet les passages de l'Ancien Testament, de l'Église, de l'Écriture sainte, pardon, selon lesquels le Seigneur était avec eux et qu'il collaborait et qu'il travaillait avec eux, confirmant la parole par des signes qui suivaient la parole. Par des signes qui les suivaient. Nous devons en arriver au point où notre foi entraîne les actions divines et compter sur le fait que ce qui est rapporté ici et qui s'est produit se reproduise à nouveau. Le dernier dimanche du mois dernier, nous avions un peu effleuré le ministère de Frère Branham en disant que comme personne avant lui, il prenait des passages de l'Écriture et qu'il n'en avait pas peur de les prendre, de se placer dessus avec foi. Et il savait que l'Écriture ne peut pas être brisée. C'est ce que Dieu a dit et c'est vrai comme il l'a dit. Et il s'est placé dessus et l'a expérimenté personnellement. Quand l'ange est venu le voir le 7 mai 1946, Frère Branham a dit textuellement, « Ils ne me croiront pas. » Il a ajouté, « Je n'ai pas été scolarisé, je suis sans instruction. » Et la réponse fut, « Il te sera donné deux signes, comme il a été donné deux signes au prophète Moïse. » Je voudrais en venir à un point. Si Dieu envoie un prophète, annonce les signes et les accomplit ensuite, alors la foi en la présence vivante de Dieu peut et doit simplement être là dans notre cœur, en nous. Elle doit être là. Par la parole, par la prédication, il faut que la foi naissent en nous que Dieu n'est certainement pas rentré chez lui avec le départ de ses prophètes, ni avec le rappel de Frère Branham, mais que le Seigneur est avec son peuple et ce jusqu'à la fin. Et que nous avons reçu la même foi, la même parole, rien n'a changé, au contraire, nous en sommes reconnaissants à Dieu. Nous avons été conduits encore même plus profondément dans ce que Dieu nous a révélé. Ce qui était peut-être encore flou il y a des années, bien que nous le croyions, mais sans le comprendre pleinement, je peux le dire avec certitude pour nous tous et aujourd'hui, par grâce, une révélation divine dans ton cœur et dans le mien. Il n'y a pas un point que Dieu a révélé qui soit resté obscur pour nous. Au contraire, l'Esprit de Dieu nous a tellement conduits de clarté en clarté, de vérité en vérité, de gloire en gloire, que l'effet de la révélation divine doit en quelque sorte simplement se percer un chemin. Dans les sceaux, Frère Branham a parlé de cela en comparant l'huile et le vin qui ne devraient pas être endommagés. L'huile, le Saint-Esprit, l'onction et ainsi de suite. Donc, typifie le Saint-Esprit, l'onction et ainsi de suite. Mais le vin, précisément, la stimulation de cette révélation divine accordé par le Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut que les choses qui nous ont été offertes par Dieu fassent vraiment déborder notre vase, que l'effet de la révélation divine, telle qu'elle est digne du Seigneur, puisse aussi se manifester de nous à lui. Que nous ne nous contentions pas de nous asseoir, de nous tenir debout, et d'écouter la parole de Dieu, mais que nous soyons submergés, touchés, enthousiasmés par le grand privilège que Dieu nous a donné de nous asseoir à l'école du royaume des cieux, non pas au pied d'un Gamaliel, mais au pied de notre Seigneur bien-aimé, qui révèle sa parole si clairement dans tous les contextes, qui a révélé sa parole si clairement dans tous les contextes, comme jamais auparavant sur terre. La foi comme le dit l'Écriture. C'est ce que disait notre Seigneur autrefois. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son corps. Nous pouvons prendre Dieu par sa parole et nous devons compter sur nous attendre à ce que ce qu'il a promis nous ait déjà été accordé afin que cela puisse se manifester. La foi n'est pas une chose convulsive que nous voudrions maîtriser. La foi est une véritable révélation de la volonté de Dieu pour le moment où nous nous trouvons et où nous pouvons prendre le Seigneur Dieu à la lettre, et cela sans effort. Prendre le Seigneur à sa parole sans effort. La foi est une révélation, c'est vrai, mais une révélation de la volonté de Dieu, de ce qui doit se passer à ce moment précis, dans lequel nous sommes. La foi n'est pas un concept flou qu'on voudrait chercher et classer quelque part. Non, la foi, qui est une véritable révélation, est adaptée au point dont il s'agit vraiment. Bien-aimés, je veux dire que si Dieu nous a donné le lien avec lui et que certaines choses sont en attente et doivent se produire, qu'il nous donne de dire soudainement, sans effort, avec nos lèvres, de prononcer ça, ce que Dieu a fait et que cela se manifeste. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur a dit dans Marc 16, oui, non, parlons dans Marc 11, dans ce cas, Marc 16, c'est en effet l'ordre général de mission. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru, Marc 16, 17, mais la foi vivante dans le Seigneur ressuscité doit rendre manifeste la puissance de Dieu elle-même, car cette foi ne consiste pas en paroles seulement, mais en actes, et se manifeste puissamment. Il y a une parole dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14, au verset 9, et voici ce qui dit, ce qui est écrit. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 9. Celui-ci écoutait la prédication de Paul, et comme il le regardait fixement, donc Paul le regardait fixement, et reconnaissant qu'il avait la foi nécessaire pour être guéri, il lui cria d'une voix forte, « Tiens-toi droit sur tes pieds. » Alors il se leva d'un bond et se mit à marcher. Paul reconnut, il vit que quelqu'un croyait. Je reviens encore une fois sur cette pensée. La proclamation de l'évangile de Jésus-Christ doit servir à ce que les hommes soient mis en contact avec Dieu, qu'ils pénètrent dans la foi vivante que le Seigneur est le même aujourd'hui et qu'il fait par conséquent la même chose. Et que cette foi vivante qui naît en nous par la prédication, prenne Dieu au mot et fasse l'expérience de ce que le Seigneur a promis. Nous pouvons dire et lire dans les quatre évangiles et plus tard dans les Actes des Apôtres aussi que nous comptons toujours sur cela. Qui s'attend en fait à ce que nous ne soyons pas seulement interpellés par des prédications ou des sermons, mais qui s'attend à ce que Dieu se manifeste. Que le Seigneur fasse dans une réunion ce qu'il a fait autrefois alors qu'il marchait sur cette terre. Qu'il fasse dans nos réunions ce qu'il a fait autrefois. Cela aussi, nous l'avons déjà souligné ici. Il n'a renvoyé personne. Et cette femme même, parce qu'elle n'était pas juive, il lui a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. C'était une réponse un peu crue que notre Seigneur bien-aimé a donnée, mais ce n'était pas encore tout à fait le tour des païens. D'abord, les brebis d'Israël devaient être rassemblées et ensuite les peuples païens devaient entendre le message. Et le Seigneur a dit, il n'est pas bon de priver les enfants de pain. Du pain, avez-vous entendu ça, du pain? Quelqu'un avait-il faim là? Non. Il s'agissait de guérison. Il s'agissait de délivrance. Bien-aimés, toute la parole est notre nourriture. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Et chaque parole est une nourriture spirituelle. C'est du pain pour nous. Tout ce que Dieu a préparé nous appartient. Et nous devons nous y tenir par la foi sur ces choses et ne pas nous laisser égarer. Il a dit ici, et il reconnut qu'il avait la foi nécessaire pour sa guérison. Il relit le verset 9 de Actes apôtre 14. À que j'aimerais qu'un jour, en tant que frère servant, nous puissions nous tenir devant des gens dont on voit déjà qu'ils ont la foi, qu'ils comptent sur le fait que Dieu donne ce qu'il a promis dans sa parole. Et cela, sans effort. La révélation, l'inspiration. Et celle-ci entraîne ce que Dieu a promis. Il y a deux ou trois passages que je voudrais encore lire. Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, verset 8. Ici, le Seigneur dit quelque chose de très important. Luc, chapitre 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera justice très vite. Mais le Fils de l'homme, à sa venue, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous avons également déjà mentionné ce point. L'ensemble du monde pieux croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est vrai aussi. Nous en sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Il est le Fils de Dieu en tant que notre Sauveur. Mais il est le Fils de l'homme par rapport à sa tâche prophétique. Rien que dans l'évangile de Matthieu, on trouve au moins 26 fois l'expression « le Fils de l'homme », « le Fils de l'homme », toujours « le Fils de l'homme ». Tout le monde pieux parle du Christ, le Fils de Dieu. Mais la Bible dit du temps où le Fils de l'homme se révèle. Luc 17, verset 30. Parce qu'une fois de plus, une partie prophétique de l'histoire du salut suit son cours. Cela devait arriver. En quoi le Seigneur fut-il montré sous les 7 chandeliers d'or en tant que Fils de l'homme? Et comme nous sommes à nouveau reconnaissants pour cette illumination, cette lumière, notre bel frère Branham l'a dit et expliqué très clairement. Christ, en tant que Fils de l'homme, la même chose qu'il faisait alors, il l'a fait à notre époque. L'explication qui a été donnée à ce sujet, également en ce qui concerne le ministère prophétique, et j'aime toujours l'entendre, je l'ai encore entendu il y a quelques jours, lorsque frère Branham a donné son témoignage, l'histoire de sa vie, et a dit comment les choses lui ont été expliquées et communiquées, et de quoi il s'agit maintenant. un signe. À l'époque, c'était un signe pour les Juifs. Et la femme au puits, la Samaritaine, qui disait, « Nous savons que lorsque le Messie viendra, celui qu'on appelle Christ, il nous dira toutes ces choses. Mais qui es-tu ? » Et la réponse a été, « C'est moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. » Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi ? Non, pas le Fils de Dieu trouvera-t-il la foi, mais le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi ? Y a-t-il des gens qui reconnaîtront cette période prophétique de l'histoire du salut et le ministère prophétique qui a été accompli en ces jours, maintenant avant le retour de Christ ? Peut-être y en aura-t-il encore parmi nous, je ne veux pas l'espérer, mais cela pourrait être le cas. Qui diront peut-être encore, oui, quelle est donc la différence entre l'Église appelée à sortir et toutes les dénominations. Je vous le dis la vérité. Elle est haute comme le ciel, éloignée de la terre. Elle est très grande. C'est en effet par la révélation prophétique de la parole que nous avons eu un aperçu de ce à côté de quoi tous les autres passent. Et quand ils disent haut et fort, nous avons le Christ. Nous n'avons pas besoin d'un prophète. Nous répondons, nous avons le Christ et nous recevons le prophète qu'il nous a envoyé. Celui qui a le Christ, il a la parole du Christ. Il s'incline sous la main puissante de Dieu. La théorie, tout le monde peut l'avoir. Le peuple de Dieu a la pratique et vit littéralement ce que Dieu fait maintenant selon sa parole. Cela me bouleverse parce que je sais très bien qu'il est nécessaire d'appeler l'Église épouse à sortir pour ne pas utiliser le mot trier, mais vraiment à sortir, à oindre nos yeux et à nous révéler ce dont il s'agit maintenant, pour que nos yeux soient oints et que ce dont il s'agit maintenant nous soit révélé. Croire comme l'Écriture l'a dit. Voici, je vous envoie Élie le prophète avant que vienne le jour du Seigneur, le grand et redoutable. Ce jour, en effet, brûlera comme une fournaise. Mais avant que le jour n'arrive, le ministère prophétique devait être là. Et justement, ce qui ne signifie rien pour les autres, signifie tout pour nous. Et nous sommes également reconnaissants de ne pas exagérer les choses, mais de les mettre sous le boisseau et de les mettre sous le, mais de les mettre sous le boisseau et de ne pas les mentionner, ce n'est pas possible non plus. Il faut garder l'équilibre et Dieu nous l'a en effet donné par grâce. J'aimerais bien poursuivre la lecture de Luc 17. Dans Luc 17, verset 5 maintenant. Luc 17, verset 5. Les apôtres demandèrent alors au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. J'ai tendance à dire que plus la parole nous a été révélée, plus l'inspiration de l'Esprit devient présente dans nos cœurs. Et plus nous recevons la foi, plus nous devenons forts dans notre regard vers Dieu et considérons le nombre total de choses que Dieu nous a révélées en fait. Parce qu'il nous aime et que nous pouvons l'aimer à nouveau. Cela va encore plus loin ici. Luc 17, verset 6. Alors le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde et que vous ordonniez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. » Nous avons également déjà parlé de ce qui a également été mentionné, à savoir que les choses ne sont pas seulement demandées par la prière, mais qu'elles sont prononcées par inspiration, simplement prononcées par la foi et sous un ordre divin, et qu'elles se produisent sous nos yeux. Je crois en cela. Je crois au ministère de la parole parlée. Je crois que comme le Seigneur l'a dit à l'époque, au lépreux, je le veux, sois pur. Pas une heure de prière, une phrase, je le veux, sois pur. Et il était pur. La parole a été prononcée. Je crois que Dieu nous mettra en tant qu'Église en accord avec lui pour la tâche finale de telle sorte que l'Église et l'épouse disent la même chose. Oui, que l'épouse dise ce que l'Esprit veut dire, que cela soit prononcé au nom du Seigneur dans la volonté de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et nous ne devons pas nous inquiéter à ce sujet. Le Seigneur a déjà décidé tout cela dans son plan. Ce n'est aussi qu'une question de temps. Non pas vas-tu ou ne vas-tu pas, tu peux ou tu ne peux pas, ou tu ne peux pas. Non, nous croyons jusqu'à ce que le moment arrive et nous le verrons de nos propres yeux. Ce qui s'est passé dans le ministère de Frère Branham doit se passer dans l'Église rétablie, dans laquelle tout a été restauré. Il ne peut en être autrement. Celui qui veut voir cela autrement passe à côté de Dieu et voit les choses à côté de Dieu. Le Seigneur ne fait pas de vaines paroles. Il ramènera une Église. Il revient prendre une église qui sera revêtue de la puissance d'en haut. Une église. Une église dotée de son autorité. Une église dans laquelle réside la puissance vivifiante de Dieu lui-même. Afin qu'à ce moment-là aussi nos corps mortels soient rendus vivants et soient changés. Et puisque Dieu a pris toute la responsabilité, il le fera lui-même en ceux qui se mettent à sa disposition. Il est question de notre Seigneur dans chapitre 2 des Actes des Apôtres où Pierre explique maintenant que le Seigneur est ressuscité le troisième jour. Et l'on y cite en substance la parole du psaume. Je ne permettrai pas que son âme demeure dans le séjour des morts et que son corps voit la corruption. Acte 2, verset 31. C'était une parole de Dieu. Il ne pouvait en être autrement. La parole devait être accomplie de cette manière. L'enfer peut bien avoir la tête en bas et le diable peut bien faire encore un peu de va-et-vient. Dieu l'a dit. Cela doit être fait ainsi, car c'est Dieu qui dit le dernier mot et personne d'autre. De la même manière, les promesses qui ont été faites pour nous doivent s'accomplir. Et il n'y a pas d'autre moyen pour cela. Il n'y a pas de détour. Il n'y a pas de si ou de mais, de peux-tu ou de veux-tu. C'est un impératif divin afin que s'accomplisse ce qui est écrit, comme à la tête, ainsi à tous les membres. Puisque nous venons d'aborder ce point avec la tête et les membres, j'ai une question à me poser et à nous tous. Dans quelle mesure sommes-nous intimement liés au Seigneur et les uns aux autres? Sommes-nous sensibles à la douleur des autres jusqu'à en pousser des cris? Si nous sommes membres d'un même corps, nous sommes liés entre nous comme les membres tout à fait naturels sont liés entre eux et à la tête. Je veux vous dire ceci. Il y a encore un manquement. Il y a encore des choses qui manquent. Ce n'est que lorsque les prémices auront été baptisées ensemble par le Saint-Esprit pour former un seul corps que cela sera possible et que cela sera manifesté. Et donc, bien sûr, la nécessité divine, comme le Seigneur l'a dit alors autrefois, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Un baptême, d'être baptisé ensemble dans l'organisme vivant de Dieu, dans le corps de Jésus-Christ lui-même. Je ne parle pas des expériences sentimentales du passé ou des dénominations qui ont tous reçu l'onction et qui pourraient parfois presque se manger les uns les autres. Il n'y a pas beaucoup de voir, à voir, n'est-ce pas, de l'amour parmi les frères et les sœurs. Mais le vrai baptême de cet esprit est un baptême d'amour et dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est donc répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Les prémices, la véritable épouse de Christ, elle a la vie de Jésus lui-même, elle a l'esprit de Jésus-Christ lui-même, elle a la parole de Dieu, elle a sa nature, elle est un avec lui et un les uns entre les autres. Je le répète, nous ne faisons pas référence à ce qui se passe aujourd'hui dans l'assemblée du mouvement, dans les assemblées du mouvement charismatique à travers le monde, où chacun croit ce qu'il veut et fait ce qu'il veut. Non, nous parlons ici des expériences bibliques que Dieu nous a fait miroiter, qui a mis devant nous, à notre disposition, un véritable accomplissement, un véritable baptême du Saint-Esprit, être baptisé, être immergé dans le Saint-Esprit, un baptême dans le corps du Seigneur, un retour au premier amour, aux premières œuvres, à la première dévotion, consécration, que tout ce qui était au commencement soit maintenant là à la fin. Ils avaient ainsi tout en commun. Personne n'a alors dit, ceci est à moi, ceci est à toi. Un seul cœur et une seule âme, chacun pour chacun et avec chacun. Cela aussi se produira, j'y crois. Car ce n'est que lorsque cette atmosphère et cette unité divine aura été créée et qu'il n'y aura pas de sable dans les rouages, mais de l'huile, l'huile de l'esprit, que la dynamique entrera dans la mécanique et que le Dieu vivant veillera à ce qu'elle s'exerce et se manifeste et produise son effet. Si toi et moi devions faire cela, nous pourrions déjà plier bagage, avoir peur et dire ça va pas, ça va mal tourner. Non, rien ne peut aller de travers avec notre Seigneur quand c'est lui-même qui le fait, car il veille sur sa parole pour l'accomplir, pour qu'elle s'accomplisse. Et comme nous l'avons souvent dit, si sa parole est en nous, il veille alors sur nous pour que sa parole s'accomplisse en nous et par nous. Alors surgit la joie, surgit la stimulation de voir que Dieu nous fait tant de grâce. Non seulement qu'il nous a sauvés, mais qu'il nous a donné la grâce de le connaître. Et comme Paul l'a dit, je veux le connaître lui et la puissance de sa résurrection. Nous croyons également en cela. Si nous l'avons reconnu, alors la puissance de sa résurrection doit aussi produire en nous ou accomplir ce que Dieu a promis et s'est proposé de faire en nous. Cela se fera. Cela doit se faire. Il ne s'agit pas de demander « veux-tu » ou « peux-tu ». Non, c'est lui qui te demande à toi et à moi. Crois-tu ? Crois-tu que je puisse faire une telle chose ? Et alors nous nous exclamons « Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Car tu l'as dit et le prix a été payé. Et nous avons une œuvre de rédemption accomplie, achevée. Et Paul, dans Éphésiens chapitre 5, a déjà vu l'Église de telle sorte qu'il la place devant lui, que le Seigneur la place devant sa face sans tache, ni ride, irréprochable. Jean l'a vu dans l'Apocalypse, au chapitre 19, comme une épouse au festin des noces de l'agneau, heureux, ou bien alors bienheureux, béni et saint, celui qui a part à la première résurrection. Ce groupe de prémices, celui que Dieu a appelé à sortir, il prendra part et sera témoin de l'action finale de Dieu. Encore un passage ici de Luc 17. Peut-être les versets 18 et 19. Ne s'est-il trouvé personne? Luc 17, 18. Ne s'est-il pas trouvé quelqu'un d'autre qui soit revenu rendre gloire à Dieu à part cet étranger? Il lui dit alors, lève-toi et marche. Ta foi t'a donné la guérison. En fait, c'est comme ça que ça devait être écrit ici dans toutes les traductions. Car dans le texte original, sauver et guérir est le même mot. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a donné la guérison. Salut et guérison, c'est le même mot dans le texte original. À Golgotha, les deux se sont produits, le salut et la guérison. Le sang a coulé pour notre rédemption, pour notre salut. Son corps a été brisé afin que nous puissions être guéris dans nos corps. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Résumons tout cela. Nous vivons les derniers jours, la fin de la fin des temps. Nous voyons l'évolution politique se dérouler ainsi. Qui aurait dit il y a un an que 5 millions d'habitants de la République démocratique allemande seraient harcelés par les gens de ce pays et quiconque a traversé une ou plusieurs fois de cette manière sait combien de tracasseries cela peut impliquer. Et tout à coup, on leur fait signe de passer. Ils ont le droit de conduire. De passer. Ils ont le droit de passer. Nous l'avons dit et nous nous réjouissons que cela se soit passé ainsi. Donc, je parle ici de l'Europe de l'Est et que cela continue à se passer ainsi. Même à Prague et partout ailleurs, nous prenons très, très bien et volontiers note de cette atmosphère de renouveau. Mais il y a une chose que je voudrais demander à Dieu du fond du cœur. Qu'une réflexion religieuse s'installe d'une manière, aussi dans le domaine religieux, qu'une réflexion s'installe d'une manière ou d'une autre dans le peuple et que l'esprit de grâce et de repentance soit répandu, ainsi que la grâce et que la raison et le retour à la raison ait lieu. Car imaginez que politiquement les gens se secouent le joug de toute leur force, n'est-ce pas? Et cela non plus n'a pas tout à fait sa place ici, mais lorsque Mr. Honecker a fêté en son temps les 40 ans avec Gorbatchev, je me suis dit en moi-même, aujourd'hui tu as fait la fête, mais demain tu seras viré. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a certaines choses que l'on prononce parce que l'on sait très bien que le temps est là. Il presse, il est ainsi de suite. Que le temps presse ainsi de suite, comme on est reconnaissant. Et le mur, n'en faites pas. D'autres s'en chargeront. Le Seigneur s'occupera de tout. Le temps est venu. La grande prostituée chevauchera la bête qui était, qui n'était plus et qui renaît. Et c'est pourquoi tous les chemins mènent à Rome. Tous mettent leur pouvoir à disposition pour que les paroles de Dieu s'accomplissent. Puis, tout à la fin, il arrivera comme le dit la parole de Dieu, qu'ils haïront la prostituée, la mettront à nu et la brûleront par le feu. Je regarderai probablement cela d'en haut, mais cela arrivera parce que la bouche du Seigneur l'a prononcée. Pensons aussi à la côte ouest de l'Amérique, à ce que Frère Branham a dit il y a je ne sais combien d'années, que la faille de Saint-André va céder, que toute la surface va s'enfoncer et tomber au fond de la mer. Tout fondamentalement, tout est à portée de main. La venue du Seigneur est proche. Puisse Dieu nous accorder la grâce et nous revêtir, nous baptiser en un seul corps, afin que sa puissance puisse se manifester et que nous allions ensuite vers ces peuples, non seulement en parole, mais que le Seigneur Dieu marche avec nous, oui, qu'il marche devant nous et confirme sa parole, afin que des hommes qui ne peuvent pas encore croire aujourd'hui soient submergés par la présence de Dieu et soient contraints de croire. Ils ont été trompés pendant suffisamment longtemps. Puisse Dieu dévoiler cette tromperie religieuse de toutes ses forces et que non seulement le rideau de fer se soit ouvert, mais aussi ce rideau pourpre dont il est principalement question, que nous le déchirions un jour. Nous devons tout laisser à Dieu, mais il peut peut-être nous utiliser pour cela et nous rendre habiles. Vous savez que Dieu a besoin d'hommes pour faire tout cela. Et cela se fera. Cela va se produire, les prisons seront brisées, les gens auront la possibilité de décider et la parole de notre Seigneur sera proclamée à l'excès. Et elle ne reviendra pas à vide, sans effet, elle accomplira ce pourquoi Dieu l'a envoyé. La question n'est pas, Seigneur, peux-tu ou Seigneur, veux-tu? Veux-tu? Le Seigneur dit, je peux, je le veux. Mais peux-tu croire? Et nous croyons de tout notre cœur. Nous croyons, comme le dit l'Écriture, nous laissons tout le reste au Seigneur notre Dieu. Il fera tout bien. Loué soit son saint nom. Amen. Levons-nous et remercions ensemble le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous sommes submergés, touchés. Les mots nous manquent, les paroles nous manquent pour exprimer ce que nous ressentons. Tu nous a rendu bienheureux. Tu nous as sauvés. Tu as pardonné toutes nos fautes, tous nos péchés, tout. Tu nous as lavés plus blanc que la neige. Si votre péché était rouge sang, il deviendra blanc comme la neige. S'il est comme l'écarlate, il sera comme la laine. Seigneur, bien-aimé, il en a été ainsi par Golgotha. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi, l'agneau de Dieu, qui t'est laissé immoler. Rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ton sang divin, saint, dans lequel a palpité la vie divine, sainte, qui est revenue sur ta troupe, rachetée par le sang, la vie de Dieu. Les premiers-nés élus de Dieu, destinés à être transformés à l'image de Jésus-Christ. Lui, le premier-né, parmi de nombreux frères. Nous ne pouvons pas le saisir. Nous ne sommes pas dignes de toute cette miséricorde. C'est la grâce et encore la grâce. Et c'est de cette grâce que nous nous glorifions aujourd'hui. Encore en tant que troupe graciée. Bien-aimé Seigneur, tu as vu les mains levées, tu connais les cœurs, tu connais la vie. Nous sommes tous dans le besoin. Nous avons tous des besoins. Nous avons tous des sujets de prière. Nous avons ceux qui nous sont proches et que nous voudrions voir auprès de toi. Seigneur, il y a tant de requêtes que nous t'apportons dans la foi. Ô Dieu, faire que le moment arrive où nous exprimons et prononçons ce qui doit arriver et que cela arrive. Et cela arrivera. Nous te remercions dès à présent, toi le Dieu vivant. Seigneur fidèle, je te remercie pour l'ouverture du rideau de fer. Je te remercie déjà pour l'ouverture du rideau de bambou. Et maintenant, je te remercie dans la foi totale que tu as déchiré aussi ce rideau de pourpre romain et que tu vas faire quelque chose qui n'a encore jamais été fait. Tu feras grâce avant le jugement. Et le rappel aura lieu, l'appel à sortir aura lieu parmi tous les peuples, langues et nations. Ô Dieu, que ta parole révélée soit comme une bombe atomique et qu'elle tombe au milieu du Vatican, afin que les peuples de la terre se rendent compte qu'eux aussi ont été trompés religieusement, comme les autres ont été trompés politiquement. Seigneur, fais qu'un réveil général se produise dans les peuples d'une manière puissante. Dieu fidèle, nous voici conscients de la responsabilité qui nous incombe, nous qui t'avons reconnu, qui avons été reconnus par toi, qui avons été instruits par toi, qui avons même reçu la révélation toute fraîche du ciel. Oh, comme nous te remercions aussi pour le ministère prophétique de notre temps, pour l'introduction glorieuse dans le plan de salut de notre Dieu. Seigneur bien-aimé, en vérité, nous n'avons pas besoin d'un homme pour nous instruire. L'Esprit nous enseigne comme l'onction nous a enseigné. C'est ainsi que c'est juste. Alléluia. Sainte onction, reste sur nous. 1 Jean 2, 27. Divin consolateur, guide toutes nos actions. Seigneur, autorise ton Église. Dote-la d'autorité divine. Révèle-la et place-la dans le ministère, dans ton ministère. Ô Dieu, nous te louons ensemble et nous t'adorons dans le saint nom de Jésus. Amen.